BFM Business et la Tribune présentent Débats et controverses, les experts.
Bienvenue dans les experts ce matin. Oui, ce n'est pas Raphaël Legendre qui est à ce CEJAP, parce que Raphaël Legendre, il est déjà à Aix-en-Provence. Vous savez que BFM Business est partenaire des rencontres d'Aix, qui cette année, le thème, c'est comment s'y retrouver dans sans repère aujourd'hui. Voilà, comment gouverner sans repère. Et dès demain matin, vous aurez dès la matinale avec Laure Clausier et on enchaînera tout au long de la journée et même samedi avec beaucoup d'émissions depuis Aix-en-Provence où là, tous les grands dirigeants sont là-bas, les grands dirigeants français sont là-bas. Mais nous, ce matin, on a un beau menu. Déjà, je veux présenter nos experts du jour. Léonidas Kalogeropoulos, bonjour.
Léonidas, bonjour.
PDG et fondateur de Médiation et Argument, fondateur d'Entrepreneurs pour la République et délégué général de l'Open Internet Project. J'en parle parce que justement, il y a une assemblée générale il y a quelques jours.
Renouvellement de bureau.
Numérique, on va revenir dessus. Avec nous également Gaël Simane. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, président d'Odoxa. Et on reviendra sur le moral économique des Français, ce baromètre chaque mois. Baromètre de juin. Tiens, le moral n'est pas au beau fixe. Hein,
le moral n'est pas au beau fixe et le regard sur les riches a changé, puisque c'est le sondage qu'on teste tous les ans, où on mesure c'est quoi un riche, à partir de quand et quelle image en a-t-on.
Eh bien, on parlera de tout ça. Et puis, parmi nos sujets, on parlera aussi des Allemands, les quelques atermoiements allemands face à la Chine. Et on aura un expert aussi pour nous parler de tout ça, enfin, qui interviendra sur tous les sujets, bien entendu. C'est Thomas Gjebin. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste à Sciences Po. Et effectivement, vous avez poussé un sujet, enfin, on vous entendra sur les autres sujets, mais sur les atermoiements, c'est ça, des Allemands face à la Chine. Donc, au menu, on parle des tendances de ce baromètre, on va parler souveraineté numérique, on va parler de la Chine et des Allemands. Et puis, si on a le temps, en fin d'émission, on parlera justement du marché automobile, comment l'électrique est en train de redistribuer les cartes. Voilà, les experts, c'est parti, on est ensemble pendant une heure sur BFM Business. On démarre avec vous, Gaël Simane, donc président de Odoxa. Donc Odoxa fait ce baromètre, en interrogeant, de façon
avec AJP, Challenge et BFM tous les mois.
Les 1000 personnes interrogées, échantillons des Français. Et on va voir un peu. Voilà, il y a en gros trois quatre indications que l'on va pouvoir retirer de ce baromètre. Première question depuis ces dernières semaines, êtes-vous plutôt confiant, moins confiant concernant l'avenir de la situation économique de la France? C'est marrant, j'ai un petit
On sait, Frédéric, que les Français sont pessimistes, quoi qu'il arrive. Quand on fait des benchmarks internationaux, nous sommes même, s'agissant de notre confiance collective en l'avenir, le peuple ou un des peuples les plus pessimistes au monde. Ce qui est intéressant avec le baromètre, c'est qu'on suit ça tous les mois, un petit peu à la manière d'un indice INSEE. Et d'ailleurs, on reconstruit un indice à partir des résultats. Et parfois, c'est pire que d'habitude. Et c'est ce qu'on observe depuis... depuis 2 ans, c'est encore pire que ce qu'on observait globalement depuis 20 ans qu'on suit le moral des Français. Ouais. Et depuis ces derniers mois... on a un encéphalogramme qui redescend encore à certains moments. Et c'est le cas ce mois-ci avec un indice de confiance désastreux. 84% des Français nous disent qu'ils sont moins confiants en l'avenir de la situation économique de leur pays. Et ceux qui se disent plus confiants depuis ces dernières semaines ne sont que 16%. Ça nous fait un indice de moins 68. Il fait très froid, moins 68 degrés dans ces périodes de canicule. Et les explications, c'est d'abord une défiance structurelle qui est liée au contexte de non-pilotage de notre pays depuis la dissolution et l'impossibilité, en réalité, que voient bien les Français pour tout gouvernement de pouvoir mener...
Donc on part du politique, ensuite on dit il y a l'économie, le reste ça ruisselle un peu sur tout le reste.
Exactement.
Heureusement, il y a le foot pour l'équipe de France.
Oui, mais regardez, le moral économique n'est pas affecté pour l'instant par les bons résultats de l'équipe de France de foot, qui est une des rares équipes parmi les favoris de la Coupe du Monde à briller. Et pourtant, ça ne suffit pas. Donc, très sérieusement, vous avez une défiance globale depuis que l'on sait qu'aucune politique ne pourra être menée dans le pays qui nous permettra de redresser la barre. Les Français l'ont compris depuis 2 ans. Donc on attend 2027 et c'est long, 2 ans. Deuxième élément qui joue, le contexte international avec ses angoisses et notamment cette inquiétude sur l'inflation liée au prix de l'essence et le fait qu'on ne croit pas une demi-seconde aux annonces chaque seconde sur Truth Social ou d'autres réseaux sociaux de Donald Trump. Quand Trump dit c'est fini la guerre avec l'Iran et que dans la minute qui suit on voit qu'Israël frappe encore le Liban, pour les Français, tout ça n'a aucune valeur et on n'est pas sorti de l'auberge, si vous me passez l'expression, à leurs yeux.
Et puis même, je suis persuadé que si on interrogeait les Français aujourd'hui, on leur demanderait, le pétrole, ça monte ou ça baisse? Tout le monde serait pas... Je suis sûr que les gens diraient, oh, c'est beaucoup trop en ce moment à cause
alors
de la guerre.
Alors que c'est trop, ils le diraient sûrement. En revanche, il y a un point qui est ce qui explique que le côté très agaçant de la hausse du prix de l'essence pour les Français, c'est que c'est un des rares domaines où vous voyez votre argent brûler sous vos yeux. Oui. Parce que quand vous êtes à la pompe, vous voyez défiler le prix que ça représente. Ils ont une idée assez oui, précise quand même du prix. Mais ils pourraient vous dire que ça augmente quand même, parce que même si ça a baissé quelque peu, ils se disent que ça va réaugmenter dans peu de temps, tant qu'on n'est pas dans une situation stabilisée. Voilà pour l'aspect moral économique. Après, il y a d'autres éléments qui sont un peu notre marronnier avec, oui, avec Challenge et BFM et AJP qu'on suit tous les ans, qui est le regard qu'on porte sur les riches. Et là, on aura d'autres éléments.
On va y revenir dans un instant. Et puis, j'aimerais justement, juste avant de revenir sur les riches, on reviendra aussi sur un baromètre que vous sortez aujourd'hui à l'occasion des rencontres d'Aix, où le thème, c'est ça, c'est comment gouverner sans repère.
Comment se diriger dans un monde sans repère, c'est le thème des rencontres d'Aix. Et avec Confluence et le journal L'Opinion, on a décidé de poser un certain nombre de questions aux Français sur cette question des repères. Et pour résumer, pour vous en faire le pitch court, on observe que pour les Français, nous sommes bien dans un monde qui a perdu tout repère. Quand on les interroge sur ce que sont les repères, donc que ce soit les valeurs, que ce soit les institutions, ils ont un sentiment, à mon avis, à l'excès, mais ils ont un sentiment d'énorme dégradation depuis 30 ou 40 ans. Et finalement, ils nous disent qu'ils n'ont plus guère confiance dans ce qui faisait les repères autrefois, et notamment l'idéologie et la politique, par exemple, et que... Peut-être que c'est encore l'entreprise qui reste un phare pour eux, un domaine où ils peuvent conserver quelques repères.
Ils ont raison.
Et les gardiens du phare, c'est BFM Business. Voilà, justement, on vient rallumer la lumière, tout ça. Je reviens, Thomas Glébine, donc justement, sur le moral économique des Français. Oui, pas de surprise, mais justement, essayons de trouver comment, hormis...
Leur redonner le moral.
Hormis l'équipe de France de foot, où on espère fera des étincelles, comment redonner le moral aux Français d'un point de vue économique?
Ce qui serait intéressant, c'est de voir le mois prochain l'indicateur, parce que quand on regarde les chiffres économiques, ce qui est impressionnant, il me semble, c'est que ça va quand même mieux depuis quelques semaines. C'est-à-dire que le prix du baril a quand même reflué de façon très significative. Les chiffres de l'inflation en France, mardi, étaient publiés, c'était autour de 2% au mois de juin, alors qu'on était plutôt presque à 2,8% le mois d'avant. Donc ça, c'est quand même des bonnes nouvelles, parce que ça veut dire que la dégradation forte du pouvoir d'achat qu'on attendait pour cette année sera probablement moins négatif que ce qui était attendu. Il faut savoir que, par exemple, dans les prévisions de la plupart des instituts, ce qui est estimé, c'était que le prix du baril resterait autour de 90 dollars dans les mois qui viennent. Donc là, s'il y a un reflux autour de 70 dollars le baril, c'est quand même quelque chose qui est, de nouveau, qui est une bonne nouvelle. Sur la croissance, ça risque. Ça veut dire aussi que la croissance, la dégradation sera potentiellement moins négative que ce qui était attendu. Et on voit bien que déjà, ça pose des gros problèmes pour les banquiers centraux qui étaient réunis hier à Sintra pour leur... Et donc, eux, il y avait quand même une tendance à remonter les taux pour essayer de casser cette inflation. Alors, on peut discuter, est-ce que c'était pertinent d'augmenter les taux alors que c'est de l'inflation importée? Donc, même si vous augmentez les taux, c'est pas ça qui va faire que le prix du baril baisse. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'ils sont encore plus, entre guillemets, en difficulté, parce que la Banque Centrale européenne a décidé il y a quelques jours d'augmenter les taux, et là, ça arrive un peu comme à contre-temps, alors que le prix du baril reflue, l'inflation...
On parle de ces repères que l'on perd, c'est un peu ça, hein, même des économistes comme vous, vous posez des questions sur ces décisions.
Ça va beaucoup plus vite. Donc, en effet, en termes de manque de repères, on estimait, beaucoup d'économistes estimaient que le baril du pétrole resterait à des niveaux plus élevés pendant beaucoup plus longtemps, que l'inflation resterait aussi à des niveaux plus élevés. Et là, en fait, ça reflue beaucoup plus rapidement que ce qui était attendu par la plupart des experts.
Léonidas, quel est le plus sur ce moral des Français?
Alors, je ne sais pas si les Français raisonnent comme des économistes. Parce que vous avez certainement raison en tant qu'économiste de regarder des indices, mais est-ce que tous les jours, les Français se lèvent en regardant comment a évolué l'indice de l'inflation. Est-ce qu'il est au-dessus ou au-dessous de 2%? Nous, on regarde ça parce que ça fait partie de nos... Mais en réalité, je pense que le tableau que Kalisiman nous a décrit tout à l'heure, c'est le tableau... Je ne sais pas si c'est de l'inquiétude ou du pessimisme. Je pense qu'il y a un vrai sentiment de quelque chose qui est un peu en perte de contrôle, que ce soit les déficits, que ce soit la violence, les résultats à l'école. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui, je pense, donnent aux Français le sentiment qu'on est à un moment de gravité. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est peut-être les moments où un pays se réveille. Mais je trouve très intéressant que dans ce paysage très contrasté, l'entreprise ait trouvé une place qui est la sienne d'ailleurs. Parce que entreprendre, c'est un acte de citoyenneté, c'est se tourner vers la société qui agit. Et quand la société agit, elle prend en main des sujets et entreprendre, c'est prendre en main des choses. Ça veut dire que la confiance dans l'État, eh bien, elle s'est véritablement affaiblie. Et tant mieux, c'est peut-être potentiellement une très bonne nouvelle. Peut-être que la raison pour laquelle notre pays est dans l'État dans lequel il est, c'est parce qu'il s'est tourné systématiquement vers l'État à chaque fois qu'il y avait un problème. Finalement, de se tourner vers les entreprises, c'est-à-dire c'est là que se trouve la richesse, l'imagination... même pour l'école, j'étais...
Après, il faudra voir quelle sera la combinaison entre les chefs d'entreprise. On les voit, ils commencent à réagir un peu.
Mais vous voyez à quel point les Français, dans d'autres sondages, demandent à ce que les entrepreneurs participent au débat public, participent beaucoup plus et prennent la parole. Je pense qu'il y a, dans le collectif que VFM Business suit, ce collectif d'entrepreneurs que nous sommes tous, chacun avec ses nuances et ses secteurs, véritablement une parole qui est extrêmement attendu, une parole concrète, proche du terrain, proche des réalités, de responsabilité. La liberté d'entreprendre, je ne sais pas ce que c'est, mais la responsabilité d'entreprendre, les entrepreneurs la vivent tous les matins. Et tant mieux si, progressivement, les entrepreneurs apparaissent comme ce que vous appelez, vous désignez comme le phare de la société. Pardonnez-moi de vous le dire, je trouve que c'est une excellente nouvelle, ce contraste entre une inquiétude générale ou une gravité générale et l'idée que les entrepreneurs peuvent être la solution. Eh bien, si c'est ça l'équation, c'est une bonne matinée.
Et les entrepreneurs, qu'ils soient riches ou moins riches, parce que justement, c'était une des autres questions. Je rebondis sur ça. Donc, question qui est posée sur savoir mettre, c'est voilà, pour réduire les niveaux solutions... déficit, seriez-vous opposé à augmenter les impôts pour les Français les plus riches? Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on en dit là?
On suit depuis pas mal d'années, effectivement, puisque malheureusement, ça fait pas mal d'années qu'on est quand même en direction du mur en termes de dette, de déficit, de situation économique macro pour notre pays. Et donc, on teste des solutions auprès des Français. Et les solutions, vous l'avez dit, Frédéric, c'est pour réduire le problème de la dette et des déficits publics, quels sacrifices, quels efforts seriez-vous prêts à faire? Vous savez que l'être humain est ainsi fait, qu'on préfère toujours que l'effort soit fait par son voisin plutôt que par soi-même. Mais quand on regarde le détail des efforts qu'on est prêt à faire, il y a un enseignement, pour rebondir sur ce que disait Léonidas il y a un instant, qui est nouveau depuis 4-5 ans par rapport aux décennies précédentes, c'est qu'avant, quand on disait on ne pourrait pas augmenter les impôts sur les entreprises, ce serait plus pratique quand même. Les gens disaient, bah oui, ce serait quand même mieux. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, quand vous testez les différentes solutions, vous avez quasiment les deux tiers des Français qui disent il ne faut pas augmenter les impôts sur les entreprises. Ouais. Alors qu'il y a bien d'autres solutions qui sont testées, qui ne sont pas forcément cool, et qu'ils apprécient nos concitoyens, enfin qu'ils approuvent, pardon. Vous avez une des solutions qui est proposée, qui est de taxer les riches. Ça, structurellement, on a toujours une très large majorité de Français qui disent « oui, faisons ça ». Mais sans doute parce qu'ils estiment que ce n'est plus suffisant, ou qu'on est déjà à un niveau élevé, bah finalement, la part de Français qui disent « il faut taxer les plus riches » a baissé de 12 points par rapport à il y a 2 ans. Elle est toujours majoritaire, c'est toujours la première solution privilégiée, mais... ça baisse nettement. Et puis, vous avez des solutions qui sont plus dures, parce qu'on peut s'en prendre aux riches, on peut s'en prendre aux pauvres aussi. La majorité des Français...
Un riche, vous l'estimez...
Alors, on va le voir juste après, parce que ça, on pourrait même faire un quiz, c'est passionnant.
Parce qu'un riche, c'est pas que Bernard Arnault.
Le riche, c'est pas...
Mais on va, ça, c'est mais les ultra-riches.
Faut pas spoiler, parce qu'on va y venir après. Et dans les solutions possibles, il y a l'idée de s'en prendre aux plus pauvres. et les Français ne sont ni des riches ni des pauvres. Et donc, réduction des aides sociales, eh ben oui, une majorité de Français y serait favorable. Il y a aussi l'idée de réduire le nombre de fonctionnaires, alors que les Français sont très attachés à leur service public. Ben, vous avez une majorité de Français qui y serait prêt. Tout ça est cité avant le fait de taxer les entreprises. Vous testiez le même sondage il y a quelques années, ben, on vous disait pas ça. On vous disait, faut d'abord taxer les entreprises et après réduire le nombre de fonctionnaires ou réduire les aides sociales. Et puis, alors, l'idée d'augmenter les impôts pour les entreprises, on est contre, je vous l'ai dit, et augmenter les impôts pour tous les Français, ça, c'est pas possible. Et puis, la bonne question, effectivement, c'est celle que vous posez, Frédéric. Mais c'est quoi un riche? Et c'est une question qu'on pose tous les ans depuis 20 ans. Et donc, c'est quoi un riche? Effectivement, Frédéric, c'est pas Bernard Arnault. Un riche, parce que lui, c'est un extraterrestre, il est hors champ. Oui. On n'imagine même pas ce que c'est. Un riche, c'est son voisin qui gagne deux fois plus que soi. Et donc, un riche, c'est 5000 euros par mois. Quand on demande aux Français spontanément de placer le seuil de la richesse, à partir de quel revenu est-on riche pour vous? En moyenne, ou en médiane plutôt, les gens nous disent 5000 euros par mois. Et la part de gens qui situent le seuil de la richesse au-delà de 15 ou 20 000 euros par mois, c'est 1% de la population. Ouais. C'est-à-dire que personne ne considère... Enfin, le riche, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas si riche que ça.
Non, c'est on les côtoie tous les jours.
Ah oui,
on
le riche, c'est celui... quand je vous disais, c'est son voisin un peu plus riche que soi, je ne plaisante pas, parce que quand on regarde en détail les résultats depuis des années, en fait, c'est celui qui gagne deux fois plus que soi, puisqu'on a le niveau de revenu des gens qu'on interroge, et on se rend compte qu'il situe la richesse à partir du moment où c'est deux fois la leur. Et en patrimoine, un riche, c'est quelqu'un qui a un patrimoine de 500 000 euros ou plus. Donc, là aussi, on n'est pas sur des patrimoines de dingue. Mmh. Mais pour finir, en réalité, sur un plan statistique, bah, on peut les comprendre, les Français, parce que quand on regarde les quartiles et les déciles INSEE sur les différents qui découpent en tranches la population française, eh ben oui, quand on gagne plus de 5000 euros par mois, on fait partie des 10% des Français les plus aisés. Alors évidemment, on peut pas s'arrêter de bosser en gagnant 5000 euros par mois et se dire, c'est bon, je suis tranquille. Mais, statistiquement, ils n'ont pas tort. Et je rappellerai, c'est la polémique qu'avait suscité François Hollande il y a 14 ans, en 2012, quand il avait dit, un riche, ça gagne 4000 euros par mois. Ben, en réalité, statistiquement, ça n'est pas faux si on raisonne vraiment en quartile, en décile. Mais ça, c'est assez passionnant parce qu'à chaque fois, ça surprend les gens quand on raconte ces données.
Et j'aime bien le côté, c'est son voisin qui gagne deux fois plus. Thomas.
Oui, c'est son voisin qui gagne deux fois plus, mais peut-être surtout en Île-de-France, parce qu'il y a des zones plus pauvres où c'est pas le cas. Et comme je pense que disait Gaël, c'est très juste. Statistiquement, c'est vrai. C'est-à-dire, quand vous regardez les déciles de revenus, au-dessus de 5 000 euros net, vous êtes dans les 10%, et au-dessus de 5 500 euros net par mois, vous êtes même dans les 5% des salariés qui ont les plus hauts revenus.
Plutôt donc, grosses agglomérations.
Mais Île-de-France, c'est vrai, Île-de-France, région parisienne, vous pouvez quasiment faire x2 en fait pour avoir ces seuils-là.
Et ensuite, ce qui est intéressant dans le débat politique, c'est et quand on regarde notamment les mesures fiscales sur les plus riches, c'est l'évolution du débat. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que l'ISF, avant sa réforme, ça touchait 1% des foyers fiscaux. Donc, ça restait quelque chose... quand on parle de taxe Zucman, ça touche 2000 foyers. Et même quand on regardait la base fiscale qu'il envisageait, qui avait environ 3 familles, qui représentait presque 50% de cette base fiscale, quoi. Ou 10 familles, c'était 70% de la base fiscale. Donc, en fait, dans les débats politiques, et c'est peut-être le talent marketing de Zucman, c'est d'avoir ciblé le débat sur les ultra riches. Et donc, en fait, ça donne l'impression à 99% des Français que ça ne les concerne pas. Mmh. Alors que même l'ISF avait une base fiscale beaucoup plus large. Et donc c'était
1,5 million de patrimoine. Enfin, c'était, je crois à l'époque,
c'était un peu moins. Je veux pas dire de bêtises. C'était un peu moins.
Un peu moins.
Ouais. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a un peu un hiatus entre le débat politique où c'est vraiment ciblé les ultra riches.
Qui n'existe pas statistiquement pour.
Sur ce que disait Gaël aussi sur les différentes mesures pour réduire le déficit, là, qu'est-ce que ça vous inspire?
Les Thomas, pauvres, les riches.
Voilà, une augmentation des impôts pour les Français les plus riches, alors avec ce seuil des 5 000 euros, réduction des aides sociales, réduction du nombre de fonctionnaires, qui sont un peu les trois premières mesures, taxer l'entreprise, c'est en bas, puis alors augmentation des impôts pour tous les Français, là évidemment. Il y a quand même 14% qui répondent allons-y.
On peut dire, la bonne nouvelle, c'est qu'il qu'il y a peut-être une prise de conscience qu'il y a un décrochage relatif de l'économie française et de l'économie européenne. Donc, il faut mettre le paquet pour soutenir le tissu productif. Mm-hmm. Ensuite, bon, c'est vrai que ça correspond pas forcément aux grandes oui. mesures d'un point de vue des masses budgétaires. Il faut rappeler que depuis 2000, 2/3 de l'augmentation des dépenses publiques, c'est lié aux dépenses sociales et essentiellement les dépenses de retraite et de santé. Donc, ce n'est pas le RSA, ce n'est pas la redistribution au sens des aides sociales, comme on peut l'entendre, il me semble, dans ce sondage. Ça pèse relativement peu d'un point de vue macroéconomique. C'est la même chose sur les fonctionnaires, sur les dépenses de l'État. Il faut voir que depuis 30 ans, par exemple, les dépenses de fonctionnement de l'État, elles ont baissé d'un point de PIB. Oui. Quand on regarde le nombre de fonctionnaires de l'État, ce n'est pas ça qui a augmenté depuis 30 ans. Ce qui a augmenté, c'est surtout les dépenses, les fonctionnaires des collectivités territoriales et les personnels hospitaliers. Mmh. Donc il y a aussi un petit écart entre la perception sur un peu la gabegie de l'État et la réalité économique. Oui. C'est qu'en fait, non, l'État, il n'y a pas de gabegie au oui. niveau de l'État. Par contre, si les dépenses publiques augmentent, c'est avant tout les dépenses sociales et puis ensuite les dépenses des collectivités mmh. territoriales. Peut-être juste un mot sur les riches. Je vais m'arrêter là pour laisser passer.
Moi, je trouve que le recul de la tentation de taxer les entreprises est une vraie victoire. Nous avons raison de prendre part au débat parce que la prise de conscience que nos entreprises sont trop taxées, que si elles sont trop taxées, elles peuvent pas se développer, que si elles peuvent pas se développer, elles créent pas d'emplois. Cette logique-là est une logique qui, je pense, est le fruit de la participation des entreprises au débat public, de leur pédagogie de ce qu'est l'économie vis-à-vis des politiques. Les raisonnements simplistes, ils en restent, mais ils sont de moins en moins propagés dans la société. En tous les cas, le contre-feu existe. Et vous parliez de la taxe Zuckmann. La taxe Zuckmann est une réussite marketing. Formidable, dévastatrice, mais il faut saluer l'artiste. C'est à nous de prendre conscience de l'impact des discours que l'on peut avoir dans la société, de la manière dont ils percolent sur la conscience collective. Nous devons impérativement continuer et amplifier la présence des entrepreneurs dans le débat public, parce que à l'évidence, ça finit par résonner. Mm-hmm. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'il y a d'autres éléments qui sont extrêmement précieux. Le dynamisme de création d'entreprises de notre pays qui est spectaculaire. Hein. On n'arrête pas d'augmenter le nombre de créations d'entreprises tous les ans. On a dépassé le million. Alors, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs dans tout ça. Et puis, bien entendu, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Mais ça veut dire que aussi tous les Français ont autour d'eux des entrepreneurs. Il côtoie des entrepreneurs. Entreprendre, c'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est pas une caste. Et de ce point de vue-là, la démocratisation de l'aventure entrepreneuriale est un élément très important, parce que chacun se dit, oui, mais enfin, si on augmente les taxes, c'est moi, c'est mon fils, des gens que l'on connaît, qui peuvent être pénalisés. Et je pense que nous devons impérativement, vous savez qu'il y a le cercle des entrepreneurs engagés, oui. 300 pour la France, tous ces mouvements qui, à côté du MEDEF, font la diversité de la parole entrepreneuriale, nous devons continuer à le faire, parce que ça a véritablement un impact sur l'opinion publique.
Et c'est Français. Bien justement que ces patrons prennent plus de place aussi. Hein. Je regardais dans la PQR maintenant, régulièrement, et on l'avait un peu moins auparavant, mais il y a toujours une deux pages sur l'économie locale, où on explique un peu pourquoi tel patron est venu se réimplanter ici, pourquoi il va agrandir, pourquoi...
Mais toute l'aventure de la réindustrialisation est une aventure qui parle aux Français, et je pense que ça leur donne aussi le sentiment que c'est par là, par le terrain, que notre pays est en train de reprendre pied.
Thomas Gévin.
Sur le débat sur la taxe Zuckmann, il y avait un autre débat qui avait eu, où on parlait pas mal l'année dernière, c'était Nicolas qui paye.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que si on reprend ce seuil de 5 000 euros par mois, qui correspond en gros à 10% des plus hauts revenus, c'est aussi la catégorie, enfin une des catégories qui contribue le plus en net. C'est-à-dire que vous regardez les chiffres de l'INSEE et que quand vous reprenez les 10% les plus aisés, leur revenu avant et après impôt est réduit autour de 25%. Mm-hmm. Donc il y a une baisse. Et quand vous reprenez maintenant la redistribution élargie que calcule l'INSEE, c'est-à-dire quand vous prenez en compte les services publics, l'éducation et tout, pour cette catégorie de revenus, c'est presque 40% de différence entre le revenu qu'ils ont avant impôt et ce qu'ils ont après cette redistribution élargie. Donc c'est aussi ce qui peut expliquer que peut-être les Français sont moins sensibles à taxer cette catégorie de la population qui est déjà une catégorie qui paye beaucoup. Et donc, c'est aussi la tentation d'aller vers ces super riches qui, eux, sont justement pas notre voisin. Quoi.
Et puis identifiable aussi avec quelques noms et que l'on peut... remarque sur lui. Gaël, pour conclure sur ce sujet-là.
Deux choses peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire l'un et l'autre. Effectivement, le Nicolas qui paye, c'est intéressant, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est... le pays qui, en termes de redistribution, ça aussi, c'est pas forcément perçu par les gens qu'on interroge. Le pays qui, en termes de redistribution, va le plus loin. Par exemple, qu'on est sur des écarts de 1 à 8 au départ entre les différents déciles, premier, dernier, et que, à la fin, avec la redistribution, on va se retrouver sur un écart de 1 à 3. Donc, on est un pays qui est très égalitaire, même si ce n'est pas forcément toujours ce que perçoivent les Français. En tout cas, ils ont plutôt le sentiment d'une dégradation de cet égalitarisme, de ce nivellement, appelez ça comme vous voulez. Ils ont un sentiment de dégradation. Et donc, on finit par Nicolas qui paye. Et dans Nicolas qui paye, il y a aussi cette idée. Il y avait des relents parfois un peu racistes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'appelait Nicolas, en suggérant que c'était toujours sur lui que ça retombait. Alors qu'en réalité, vous l'avez dit, je crois, sur le système de redistribution, ça joue aussi beaucoup. Et ce que dépense l'État sur nos seniors, qui s'appellent souvent Nicolas aussi, et qui sont eux qui pèsent assez lourd dans notre système en termes de retraite, en termes de santé. Et puis ce que disait Léonidas, j'allais dire Nicolas, sur l'aspect entreprise, oui bien sûr que c'est pour cette raison qu'en l'espace de 5, 7, 10 ans, on a vu se retourner complètement ce que j'enregistrais sondage après sondage, c'est-à-dire on peut toujours taxer plus les entreprises, nous disaient les Français auparavant, et aujourd'hui ils ne nous disent plus cela parce que d'abord, ils ont le sentiment que si on taxe les entreprises, les primes, les augmentations d'impôts, ils n'en verront pas la couleur, que le chômage, ça va les toucher et que leurs entreprises n'embaucheront pas. Et puis, vous l'avez dit, Léonidas, le fait que l'entrepreneur, ce n'est plus dans la représentation collective. D'ailleurs, vous avez vu le mot qu'on emploie, entrepreneur. Ce n'est plus le patron avec les dessins à l'ancienne, avec le chapeau et le gros cigare. C'est devenu effectivement un jeune éventuellement qu'on connaît, un cousin, un beau-frère, et donc il n'est plus exotique pour les gens. C'est quelqu'un à qui qu'ils peuvent côtoyer.
Et puis on leur a donné un peu plus la parole.
Évidemment
chez BFM Business, mais on voit même les médias mainstream qui leur donnent beaucoup plus la parole.
Et puis la politique, le reflux de la crédibilité des politiques joue aussi en négatif, en creux, en faveur d'autres acteurs et notamment l'entreprise.
Il me semble que c'est une évolution importante de l'économie française depuis une dizaine d'années, c'est justement cette désirabilité qu'on observe, il me semble, notamment chez les jeunes, vers l'entrepreneuriat.
Absolument.
Alors, ils veulent davantage être des chefs d'entreprise plutôt que des fonctionnaires. C'est vraiment des bonnes nouvelles.
Et on va conclure notre première demi-heure de ces experts. Merci d'être avec nous. Je rappelle Léonidas Kalogeropoulos, Gaël Simane et Thomas Gébinon. On marque une très courte pause. On se retrouve juste après. On parlait de souveraineté numérique. Et puis, on va revenir aussi sur les atermoiements allemands face à la Chine. Et puis, je vous l'ai dit, si on a le temps, on me donnera un petit mot sur le marché automobile. C'est tout de suite sur BFM Business.
BFM Business et la Tribune présentent Débats et controverses, les experts.
Voilà, les experts, sans Raphaël Legendre, Johnny, mais que vous retrouvez bien entendu demain, puisque demain, BFM Business est totalement délocalisé, très grande partie, à Aix-en-Provence pour les rencontres d'Aix-en-Provence, où on va beaucoup parler de ces repères dont manquent aujourd'hui à la fois les entrepreneurs, à la fois les entreprises, à la fois aussi les citoyens. Ce sera tout au long de la journée, dès 6h du matin, avec dès 7h du matin, par contre, un peu plus tard, avec Laure Clausier. Ça enchaînera évidemment avec Raphaël Legendre. Avec nous, Léonidas Kalogeropoulos, PDG fondateur de Médiation et Arguments, Gaël Simane, président de Doxa, et Thomas Gébine, économiste à Sciences Po. Merci à tous les trois d'être avec nous. Léonidas, on commence avec vous, parce que parmi vos titres, vous êtes délégué général de l'Open Internet Project. C'était l'Assemblée Générale, c'était il y a quelques jours, le 26 juin.
Vendredi,
et
oui.
Parmi les sujets, il y avait un sujet sur la souveraineté numérique, où vous dites qu'il faut ouvrir les marchés publics et privés aux solutions numériques souveraines, conditions nécessaires à la souveraineté industrielle et économique. Et pourquoi j'en reparle aujourd'hui ? Parce qu'il y a encore 15 jours, c'était Vivatech. Et Vivatech, c'est évidemment remonté beaucoup. C'est un sujet qui est vraiment remonté. Bon, depuis 18 mois, hein, depuis l'arrivée de Trump, évidemment, on sent un peu plus ce que des souverainetés. Mais à Vivatech, c'était encore plus fort. D'autant plus que si vous suivez l'actualité, alors la technologique, vous savez, on a toutes ces intelligences artificielles d'Anthropic, d'OpenAI. Et il y a quelques jours, c'est l'administre américaine qui a dit ces IA-là, ces dernières versions, Mythos, Fable 5, si vous en avez entendu parler, on les bloque. Voilà, on estime
que... On appelle ça le kill switch.
Le kill switch. On les garde pour nos Américains, mais par contre, on ne va pas les diffuser ailleurs. Bon, depuis, ça s'est ouvert, il y a plein d'épisodes derrière tout ça. Mais ça a permis à tout le monde de se dire, ce dont on parlait depuis des années dans le numérique, si un jour les Américains nous coupaient le robinet, ils en sont capables.
Voilà. Vous savez, si ils coupent le robinet, ça fait ressurgir un certain nombre de technologies qui servent à nos paiements tous les jours. Mm-hmm. On revient au troc. Hein.
Ouais.
Le degré de dépendance que nous avons atteint dans l'ensemble des champs économiques, ce que nous avons voulu acter à l'occasion de cette Assemblée Générale où on a un nouveau bureau avec Thomas Brignan, président de l'OVID.
Juste un mot, Open Internet Project, l'objectif vraiment...
Alors, d'abord, ça a été créé en 2014 et notamment pour des batailles antitrust. D'ailleurs, vous voyez des batailles antitrust. L'acte fondateur de la grande bataille, c'était Google Shopping.
Oui, il vient encore d'en prendre
Les échos de ce matin parce que les délinquants multirécidivistes, ça n'arrête jamais. Antitrust, Google, c'est la même chose.
Ouais.
Le fait de favoriser son comparateur de prix sur les comparateurs de prix en Suède. 1,2 milliard d'amendes.
Ouais.
Sur Google Shopping, c'était 2,4 milliards d'amendes. Et en l'occurrence, l'Open Internet Project était partie prenante dans cette plainte. Mais nous avons accompagné beaucoup d'autres dossiers d'antitrust dans le numérique. Ce qui est nouveau dans cette décision que nous avons collectivement prise à l'occasion de cette Assemblée Générale, c'est de dire que les armes antitrust ne vont pas pouvoir suffire à ce que nous ayons des outils numériques suffisamment puissants pour faire refluer notre dépendance à la technologie américaine. Et cette question de dépendance à la technologie américaine, c'est pas uniquement un problème de numérique. Et nous avons également ouvert l'association à tous les utilisateurs de plateformes numériques. Pourquoi ? Lorsque vous avez un centre de contact numérisé, vous avez tous les jours toute votre activité qui est, passée au crible des plaintes des clients, de leurs demandes. Vous imaginez la quantité de données que vous livrez à des acteurs qui, en l'occurrence, sont potentiellement demain vos concurrents. Vous leur donnez la totalité des éléments les plus secrets de votre business model. Lorsque vous utilisez vos mails, lorsque il y a eu cette affaire de Alstom, qui a été dont le président, l'un des dirigeants, a été mis en prison en descendant d'un avion américain, on avait pris la totalité de ses mails. Si vous voulez développer, du nucléaire demain, et que vous faites toutes vos réunions avec Teams, c'est pas tout à fait évident que ce que vous vous dites sur votre modèle de développement sera gardé de manière confidentielle par rapport à des concurrents que vous pouvez avoir de l'autre côté des États-Unis. Et effectivement, vous avez raison de dire que nous avons un promoteur aujourd'hui qui tous les jours remet une pièce dans la machine de cette nécessité de restructurer notre souveraineté, c'est Donald Trump, qui nous montre qu'il n'y a pas de limite. Le kill switch d'Anthropic le samedi 21 juin, si je me souviens bien, à 17h, c'est de dire, moi j'ai décidé que vous aviez un outil, vous l'avez plus. Et ça peut arriver n'importe qui, parce que il a même pris en grippe un juge qui avait eu la mauvaise idée de s'attaquer
à
Benjamin Netanyahou. On lui a coupé la totalité des services et vous ne pouvez plus utiliser sa carte
bancaire. Ça commence un peu à bouger, parce qu'il y a l'Europe a sorti le Tech Sovereign Package,
oui,
avec un ensemble de logiciels, de plateformes, tout ça qui sont souveraines. Après, on sait bien qu'on peut pas se passer des Américains comme ça du jour au lendemain. Moi, je pense que c'est plus une histoire de négociation, non?
Je pense qu'il y a d'abord une prise de conscience, c'est que tous les ans, il y a des marchés publics d'environ 50 milliards qui financent des achats de solutions numériques américaines. 50 milliards, quand bien même on en mettrait 10% sur les solutions souveraines, eh bien, c'est des rampes de lancement. Quelle est la problématique que nous avons avec les solutions américaines? C'est qu'elles ont toutes été dopées à des commandes publiques. Et donc, elles ont pris une avance par rapport à nos solutions, qui sont des avances qui permettent d'avoir des prix de dumping, d'avoir, bien entendu, des investissements sur l'IA qui sont considérables. Mais nous devons impérativement trouver la place pour des solutions souveraines dans des marchés publics et privés. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on tourne la page. Mais progressivement, cet objectif-là, ce n'est pas que des textes, ce n'est pas que des déclarations. D'ailleurs, on voit beaucoup de ministères ou d'agences publiques qui parlent de la souveraineté, mais qui passent tous les jours des contrats avec leur DSI pour des solutions américaines.
La DGSI a signé avec Chapsvision.
Alors, vous avez vu qu'effectivement, c'était en discussion depuis longtemps. La décision a été prise il y a quelques jours. Effectivement, on était tous très étonnés que la DGSI travaille avec Palantir. C'est passé à Chapsvision. Pourquoi est-ce que ça peut passer à Chapsvision? Parce que l'on a une solution. Ouais. Et Chapsvision est un des champions. Et si on veut des champions, ils doivent avoir des marchés. Et donc, cette conquête des marchés, c'est la nouvelle conquête absolument prioritaire que nous avons au sein de l'OIP.
Avec l'Open Internet Project, donc on rappelle, l'Assemblée Générale avait lieu le 26 juin. Thomas Gébine, justement, sur cette souveraineté.
Je pense que numérique. La commande publique, de façon large, ça peut être un outil stratégique majeur. La commande publique en France, c'est autour de 14% du PIB, autour de 400 milliards. Donc, passer d'une logique d'achat juste par les coûts à une logique beaucoup plus stratégique, ça permettrait que ce soit dans la tech ou dans l'industrie traditionnelle, entre guillemets, aussi de favoriser notre production française ou européenne et notre tissu productif. Olivier Luanzi, qui est souvent invité sur ce plateau, avait calculé, par exemple, que si on passait de 60% d'importation, ce qui est aujourd'hui un peu l'ordre de grandeur pour la commande publique dans les biens manufacturés, qui sont importés, à 40%, ça permettrait d'augmenter le chiffre d'affaires industriel de près de 15 milliards. Donc on voit bien que, et c'est la même chose sur la tech, il y a un enjeu majeur parce que, en fait, on manie des sommes qui sont très importante. L'autre chose que je voulais dire sur la souveraineté numérique, c'est que il y a la question de réduire les dépendances, en particulier vis-à-vis des États-Unis, mais il y a aussi une question majeure qui est liée, c'est dans quelle mesure on contrôle la chaîne de valeur de l'IA. C'est-à-dire que l'IA demain, c'est un enjeu majeur de création de valeur, de création de richesse. Or là, malheureusement, l'Europe est très mal positionnée quand on regarde les différentes couches de l'IA, des microprocesseurs.
Il faut descendre tout en bas, parce qu'on a vu un article sorti dans les Échos il y a quelques jours qui dit, voilà, face à la domination américaine et chinoise en IA, l'Europe peut encore se faire entendre avec ASML, qui est... Alors, ASML, c'est un gros industriel néerlandais, qui agit au niveau mondial, mais qui fait ses imprimantes, alors très sophistiquées, c'est la taille de deux poids lourds, il faut 6 mois pour la monter, 6 mois pour la paramétrer, mais ça permet d'imprimer ces processeurs très petits qu'on retrouve ensuite dans nos smartphones.
Oui, ça c'est un atout très important pour l'Europe, mais quand on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, on est plutôt en Europe à moins de 10%. Et donc, ça veut dire que 90% de la valeur est transférée vers le reste du monde, essentiellement vers les États-Unis. Et donc, par exemple, il y a des estimations. Aujourd'hui, notre transfert de richesse vers les États-Unis, justement, lié à ces solutions tech, c'est autour de 1,5 point de PIB européen. On estime qu'en 2030, ça pourrait représenter presque 500 milliards, donc autour de 2% du PIB européen.
C'est le cabinet Asterès qui avait évalué avec le CIGREF, qui représente les grandes entreprises françaises, les patrons informatiques, grandes entreprises françaises. Je crois que c'est l'ordre de 200 milliards d'achats Haïti, des entreprises européennes qui partaient juste pour les achats Haïti, qui partaient, et on se disait, mais on capte juste 10-15% ouais. de ce marché-là.
Et un dernier enjeu qui me semble très important, et c'est un peu, si on fait un parallèle avec l'industrie, c'est que l'enjeu, c'est pas que si on a d'avoir une couche de souveraineté comme on aurait des usines d'assemblage. C'est que véritablement, soit pas juste la façade qui soit européenne ou française, mais que véritablement les couches plus profondes, là où il y a la création de valeur, on en réussisse à les intégrer sur notre territoire.
Gaël Pilonidas.
Alors, vous savez, sur ces sujets de souveraineté et de rapport à l'IA, on est souvent ensemble, oui. Frédéric, sur un autre plateau pour parler de notre baromètre sur l'innovation avec Saegus. Et ce qu'on observe sur ces sujets-là, c'est qu'on ne comprend pas bien, je rebondis sur ce que disait Léonidas, pourquoi nous serions ou nous sommes les idiots du village international. Pourquoi on tolère que les Américains fassent des choses et que nous ne sommes pas capables, à l'échelle européenne, de riposter un minimum. Donc quand on teste l'IA Act, quand on teste l'idée de souveraineté dans notre baromètre, l'idée de souveraineté française ou européenne face aux États-Unis, quand on teste... Une question de pur bon sens, ce que disait Léonidas et ce que vous indiquez aussi, que sur des marchés publics français ou européens, on tende à privilégier ce oui. qui vient de France et d'Europe plutôt que ce qui vient des États-Unis ou de Chine. Ce que les autres font, et
mais
tout le monde
sûr,
le
ils
sait,
font ça tout le, tous les
ils
jours.
Font ça tout le temps. Et donc, quand vous interrogez nos concitoyens et quand on fait le baromètre à l'échelle européenne, c'est encore pire. Les gens, enfin c'est pareil, les gens vous disent, mais pourquoi on accepte d'être toujours les dindons de la farce, les idiots du village européen, et vous avez des niveaux de 60-70%. Après, le problème, c'est que quand vous interrogez sur la souveraineté dans la même enquête, alors vous savez, Frédéric, mais je le dis pour les autres, on interroge des Français et ce qu'on appelle des pros de la tech, donc des gens qui maîtrisent, soit qui travaillent dans des boîtes de tech, soit qu'ils sont dans des fonctions de DSI dans des entreprises plus classiques. Et quand on interroge ces gens-là, ils nous disent « Mais bien sûr, la souveraineté, c'est capital. S'il existait un ChatGPT aussi oui. performant français ou européen... »
Alors, on pousse évidemment des Mistral. Hein, des
bien sûr, Mistral, on pousse mais... Mistral. Au moment du lancement de Mistral AI, on avait testé, on voyait qu'il y avait une appétence. « Eh bien, je l'utiliserai, nous disent les gens. » Et puis derrière, on leur dit « La souveraineté, c'est important. Vous me dites que vous le feriez. Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui comme IA ?» Et les utilisateurs nous disent, j'utilise des IA américaines. Il faut pouvoir aider. Les Français, ils sont prêts. Mais il faut peut-être aussi que nos politiques à l'échelle européenne, se fassent pousser un peu de courage.
Alors, cette question de la riposte, comment on riposte, c'est une question très importante. Juste vous donner un exemple. Il y a une administration qui a inventé une suite collaborative dans l'administration, pour l'administration. Et donc, c'est comme si elle avait fait une espèce de colcause administrative numérique pour dire, comme ça, on sera affranchi de toute dépendance à tout. Mais on n'a pas besoin de ça. Quand vous avez l'Éducation nationale qui a 1 million de collaborateurs, vous imaginez la rampe de lancement pour une solution numérique française. Eh bien, ils ont passé l'essentiel des contrats avec Microsoft. Donc, là, il y a des usages. Et la raison pour laquelle je vous donne cet exemple-là, c'est parce que souvent, et c'est le cas dans le numérique, la riposte qui a été imaginée par rapport à cette ultra-dominance américaine, c'est des taxes. Et vous avez entendu d'ailleurs Donald Trump dire, si on a les pays qui appliqueront une taxe sur nos solutions numériques, on va leur mettre des taxes à 100% sur tout le reste. Mais c'est pas ça que nous demandons. Nous demandons pas que l'on taxe les Microsoft et Google. On demande que on privilégie. Je vous prends absolument. Et les solutions existent. Enfin, on évoquait tout à l'heure les contacts clients numérisés. L'acteur dominant dans toute l'économie publique et privée, c'est une boîte qui s'appelle Genesis. Le secrétaire général de l'Open Internet Project, Jean-David Benichou, a une solution, une plateforme qui s'appelle VIO. C'est une solution qui est parfaitement opérationnelle et qui est totalement remplaçable. Mais le réflexe d'un DSI, c'est de dire, je vais pas prendre de risque, prends l'acteur dominant, on ne me le reprochera jamais.
Comme il le fait depuis 30 ans avec Microsoft et avec Oracle. Avec tout
donc, cette révolution-là, on doit la faire, elle est impérative, c'est infiniment plus important que de faire des textes ou de faire des taxes. Voilà.
Je voulais que je vous dise, on observe la même chose à ma petite échelle, dans le monde des instituts de sondage. Quand vous avez des appels d'offres, Odoxa bosse avec tout le monde, quand vous avez des appels d'offres publics avec des grosses administrations publiques bien classiques, il faut appel à des instituts internationaux, plutôt qu'à un institut français avec un capital français comme l'Ethodoxa. Parce que on se dit, c'est plus gros, donc c'est international, donc je prends moins de risques. Et il faut changer de ces réflexes-là. Je suis d'accord.
Oui, un dernier mot là-dessus. Et puis d'ailleurs, on redémarrera avec vous, Thomas, sur parler des atermoiements là, des Allemands face à la Chine.
Je pense que justement, ce domaine de l'IA, c'est un domaine où justement le partenariat franco-allemand, le coup franco-allemand qu'on évoque souvent, ça pourrait marcher parce que nous, on a un Mistral et c'est vrai que c'est pas.
Ouais, eux, ils avaient un Alfalfa, voilà. Mais,
c'est vrai que les Allemands, notamment la famille qui possède Lidl, a développé une solution de cloud.
Genre un peu AWS.
Voilà.
Amazon Web Services.
Qui monte en puissance. Donc, on pourrait très bien imaginer un partenariat franco-allemand où, en fait, on met le paquet sur Mistral en termes de modèle. Et on s'appuie sur le cloud allemand. Ça ferait un effet d'échelle. Et avec la commande publique des deux côtés, ça permettrait de monter en puissance. Ce serait peut-être pas à court terme aussi compétitif que les solutions américaines. Mais je pense que pour la plupart des usages des administrations françaises et allemandes, ce serait largement suffisant.
Et puis, peu à peu, on arrive à avoir certains centres de calcul. On a SoftBank qui, lors de Choose France, a annoncé un investissement de 70 milliards, dans une première tranche de 40 milliards pour monter des centres de calcul IA, donc à destination des entreprises françaises. Donc voilà, on commence à avoir ces trucs. Après, fabriquer des composants, c'est une autre histoire. On a quelques entreprises, les STMicro, les Soitec, mais voilà, avoir toute cette chaîne, c'est...
Un petit point quand même, c'est intéressant aussi de réfléchir à nos modèles culturels. Lorsque vous avez les IA qui s'entraînent ou qui désormais offrent des solutions en utilisant toute la donnée des journalistes, sans citer les médias, sans rémunérer les médias.
Le nouveau modèle
de Google.
De Google et Overview,
oui. L'Overview qui va donner la synthèse. Donc, vous pourrez faire votre revue de presse en demandant à Overview quelles sont les actualités du jour. Il vous fera votre synthèse à partir de tout ce que la presse a fait sans un centime d'euro pour la presse. Ça, ce sont aussi des pratiques. L'abus de position dominante, ça a quand même été le modèle de tout le numérique. Finalement, on a Donald Trump qui a copié tous les acteurs du numérique. Puis, il est venu, il a emmené le modèle dans la Maison Blanche.
Et puis rappelons aussi les biais, parce que toutes ces grands modèles d'IA s'entraînent sur des données essentiellement américaines. Et je doute que dans 30 ans, quand on va demander qui a inventé l'aviation, je ne sais pas si on ressortira les fameux faucheurs de Marguerite chez nous, si on parlera que des frères Wright. Enfin, il y a aussi tout cet enjeu autour de tout ça. Allez, il nous reste une dizaine de minutes. C'était Thomas qui avait remonter ce sujet, c'est Friedrich Merz, donc le chancelier allemand, qui durcit le ton. Hein. Berlin semble encore hésiter au moment d'assurer un vrai rapport de force avec Pékin. Voilà, c'est quoi la césure thermomètre allemand ?
Je pense qu'il y a une prise de conscience quand même en Allemagne sur le fait que l'industrie chinoise est en train de menacer à la fois l'industrie européenne et plus spécifiquement l'industrie allemande. J'ai publié avec Matteo Torres et Paco Lefebvre pour le Haut Commissariat au Plan un rapport en février sur le rouleau compresseur chinois. Et ce qu'on montrait dans ce rapport, c'est que 70% de la production allemande est menacée par l'industrie chinoise, 70%. Et ce qu'on montrait, c'est...
Donc l'industrie lourde, dans l'acier,
tous les secteurs clés de l'industrie allemande qui ont fait la richesse de l'Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'automobile, la machine-outil, la pharmacie, la chimie, tous ces secteurs sont aujourd'hui directement menacés. Et donc, je pense qu'il y a aussi en Allemagne, notamment avec les destructions d'emplois qui sont très fortes, industrielles depuis quelques mois, une prise de conscience qu'il faut une réaction forte. Et donc, c'est là où le chancelier Merz, notamment après le sommet européen il y a deux semaines, avait dit il y a une sous-évaluation de la monnaie chinoise de 30 à 40% et on pourrait envisager une solution type accord de Plaza, c'est-à-dire l'accord qu'il y avait eu dans les années 80 où les États-Unis avaient mis une très forte pression sur le Japon pour qu'il y ait une réévaluation du yen. Mais on voit bien que l'Allemagne est tiraillée. Il y a le chancelier Merz qui semble pousser pour une réponse beaucoup plus forte, un peu pour s'aligner sur ce que propose la France. Le président Macron avait proposé, par exemple, de mettre en place une section 301, c'est-à-dire c'est un peu le modèle américain, ce qui vous permet de mettre des droits de douane sur sur des secteurs entiers, donc qui permettrait une réponse.
Et c'est ça dont ont peur les Allemands aussi, c'est d'avoir vraiment ce côté de représailles de
Paris. Oui, mais en fait, le problème, c'est que vous avez en particulier des grands groupes automobiles allemands qui ont beaucoup investi en Chine et qui conservent des parts de marché significatives.
Notamment, et une image des voitures, si on parle des voitures allemandes, les voitures allemandes, toujours une excellente image en Chine.
Même si cette image est en train de changer. Et donc, vous avez une divergence d'intérêts qui est de plus en plus forte entre ces grands groupes qui ont beaucoup investi en Chine et les sous-traitants, le Mittelstand allemand, qui, eux, voient bien que si Volkswagen se met à produire en Chine, plus seulement pour le marché chinois, mais pour exporter vers le reste du monde, ben en fait, c'est tout le tissu productif allemand qui sera menacé. Exactement ce que nous, on avait connu dans les années 2000, où il y avait eu cette divergence d'intérêts entre nos grands groupes qui avaient intérêt à délocaliser, mais ce qui fragilisait toutes les filières sur le sol national. Ouais. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en Allemagne, il y a vraiment ce tiraillement.
Et on est un peu lent à bouger, c'est ça ?
Alors, on est très lent à bouger et le risque, c'est qu'on revive ce qu'on a vécu dans les années 2000 dans les panneaux solaires. Il faut se souvenir que dans les années 2000, l'Europe avait une production significative au niveau mondial de panneaux solaires. On n'a pas voulu voir la montée en puissance extrêmement rapide dans ce secteur et en moins de 5 ans, on avait quasiment disparu de la carte des panneaux solaires. Donc les panneaux solaires, d'un point de vue macro, ce n'est pas très important. Mais quand on parle de 70% de la production allemande qui est menacée, on voit bien que c'est une toute autre histoire et ça pose la question.
Moi, l'industrie française, je me lancerai dans le fabrique de climatiseurs aussi.
Là, oui, il y a un marché prochainement. Mais pardonnez-moi, est-ce que vous décrivez, vous avez le sentiment que c'est caractéristique à l'Allemagne ou est-ce que c'est véritablement, et c'est mon sentiment, un problème européen parce que j'ai le sentiment que la France est tout aussi exposée à ce raz-de-marée.
On a une industrie moins puissante.
Ce qu'on voit, c'est que donc c'est 70% de la production allemande, c'est 50% en moyenne de la production européenne. Ouais. Et la France est relativement moins exposée. C'est autour de un tiers de notre production manufacturière qui serait exposée. D'une part, parce qu'on a le luxe qui est moins directement exposé.
Dans l'automobile, on voit Stellantis qui signe avec les Chinois.
On s'est aussi plus désindustrialisé que les autres. Allemands. Donc on est relativement un peu moins exposé, mais enfin un tiers de notre production qui est menacée, c'est énorme.
Pour
une entreprise, ça reste colossal.
Je trouve que sur l'ensemble de ces sujets, le progrès technologique, et j'écoutais votre antenne comme tous les jours, bien entendu, ce matin, ce débat sur l'intelligence artificielle, est-ce que ça va tuer des emplois il y a là quand même à la fois la robotique, la numérisation des process, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les chaînes de production, ce qui probablement peut sauver notre industrie. Si on reste avec nos industries traditionnelles et que l'on est en concurrence avec la Chine sera systématiquement en avance technologiquement et en économiquement plus avantageuse et plus compétitive. Si on veut retrouver de la compétitivité, il faut que notre industrialisation se fasse véritablement avec les outils les plus numérisés, les plus modernes. Nos outils de production, s'ils sont plus numériques, seront performants et seront capables de résister à la concurrence.
Mais aussi, on en parlait ce matin justement sur l'IA suppression d'emplois ou l'IA accélérateur, pour les entreprises ça vient d'utiliser, c'est aussi le changement de process.
Mais c'est justement
production, on construira toujours de la même façon, mais tout le process logistique, tout ça, enfin, il faut repenser. Les métiers aussi qu'il faut repenser. Et ça, peut-être que, moi, je le vois en termes d'IA, j'ai l'impression que trop souvent, on applique l'IA, voilà, c'est dans notre quotidien, ce qu'on peut faire nous, on met du chat GPT, voilà, un peu plus dans nos recherches, alors qu'il faudrait complètement repenser la façon dont.
C'est les process. C'est les process de production.
On reboucle avec ce dont on parlait tout à l'heure sur notre baromètre sur l'innovation et l'IA. Avec Saegus qu'on a publié il y a quelques semaines que j'ai présenté chez vous, Frédéric, c'est une terreur pour les gens en même temps l'IA à moyen terme, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent. Vous vous souvenez les résultats spectaculaires que nous indiquaient les Français et les vrais pros de la tech, ceux qui maîtrisent, utilisent au quotidien et qui nous disaient les uns comme les autres, c'est absolument génial. Une fois qu'on y a touché, je parle de l'IA, on n'a plus s'en passer. C'est-à-dire que serait impossible de revenir en arrière et de se dire on arrête. Donc c'est formidable. Mais nous sommes persuadés, notamment les cadres et plus encore les pros de la tech, que l'IA va me prendre mon boulot demain ou après-demain.
Non mais vous avez raison.
Et donc il y a cette crainte-là qui en plus est confortée, confirmée par un certain nombre de, pour le coup, de tycoons, de champions de la tech, qui le disent aussi. Et c'est pas ce qui se passait au moment où les canuts lyonnais cassaient leurs machines à tisser à la fin du 19e siècle. À chaque fois qu'il y a des révolutions industrielles, les gens ont du mal à voir la potentielle révolution schumpeterienne, destruction créatrice, de nouveaux emplois.
La temporalité est différente.
Exactement. Tellement différente. C'est ce que disait Marc Trilling de Saegus quand on faisait l'émission ensemble. Il disait, le problème de l'IA, c'est pas qu'il y aura pas de destruction créatrice comme chez Schumpeter. C'est que, sans doute, le risque, c'est que le temps va être tellement raccourci que le temps que les anciens emplois soient détruits et que de nouveaux qu'on n'imagine pas aujourd'hui puisse se créer, et ben peut-être qu'il y aura de la casse. Oui, et en tout cas, c'est une inquiétude qui est surtout partagée par les
gens.
Je pense que ce qui est très intéressant, c'est de voir, y compris en Californie, dans le cœur de la quête, la tech, les inquiétudes. Il y avait un article il y a quelques semaines de Kenneth Rogoff, qui n'est pas vraiment un économiste gauchiste entre guillemets, et il évoquait lui-même l'hypothèse d'un revenu universel, justement parce qu'il y aurait une telle concentration de richesses chez les géants de la tech et de l'IA, qu'en fait, ça pose une question quand même majeure d'emploi pour le reste de la population. Et donc, quelqu'un comme Kenneth Rogoff, de nouveau, évoque même l'hypothèse d'un revenu universel, c'est quand même, ça montre le niveau...
Mais à la base, le revenu universel, parenthèse, cher à Benoît Hamon, qui avait complètement coulé sa campagne en 2017, parce que ça heurtait beaucoup les Français, le revenu universel, c'est quelque chose qui vient de ces gens-là, c'est-à-dire de libertariens, de libéraux, de gens qui ne sont pas du tout des gauchistes, des cousins de Musk, en quelque sorte, et qui ont tellement anticipé qu'il n'y aurait plus d'emploi, et ça fait pas mal d'années qu'ils le pensent, avant même que l'IA ne se développe comme aujourd'hui, qu'il fallait bien que les gueux puissent quand même arriver à se nourrir, entre guillemets.
Je vous permets de combattre cette idée et de dire à quel point j'en ai horreur.
Mais simplement,
en moins d'une minute, faire passer notre niveau d'industrie qui s'est effondré, je vous le rappelle, à 9% de notre PIB dans l'industrie, le faire passer à 20% avec l'utilisation de tous les nouveaux process numérisés et l'utilisation de l'IA, c'est la promesse d'abord de créer des emplois, parce que ces emplois-là, pour le moment, on ne les a pas, mais donc on en créera, et d'avoir une industrie qui aura moins d'intensité de main-d'œuvre, et ce qui nous permettra de reconquérir des marchés face à l'international. Donc, passer de 9 à 20, ça, c'est un vrai projet de réindustrialisation, et y mettre de l'IA dedans, eh bien, c'est créer des emplois, et de créer des emplois qui permettront d'avoir une production compétitive.
C'est ce que dit un rapport Ramp et Revolution Labs, si vous avez l'occasion. C'est Ramp et Revolution Labs. C'est un rapport américain qui dit plus on investit dans ses salariés pour leur formation, tout ça autour de l'IA, plus on s'en sort et plus on embauche de jeunes d'ailleurs. Ils ont quelques chiffres autour de tout ça, je vous le conseille. Merci Leonidas Kalogeropoulos, PDG fondateur de Médiation Argument, fondateur d'Entrepreneurs pour la République et délégué général de l'Open Internet Project. C'était l'Assemblée Générale il y a quelques jours. Voilà, s'il y a des conclusions évidemment sur le site de l'Open Internet Project. Gaël Simon, président d'Odoxa, merci pour ce baromètre du mois de juin. On verra si le futur titre de football de l'équipe de France nous redonnera le moral.
C'est un moral économique, il est probable que ça joue peu. Mais bon.
Allez, on verra tout ça. Merci encore pour ce baromètre au Doxa, JPB et BFM et Challenge. Et Thomas, j'ai dit merci de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous, économiste à Sciences Po. Allez, on poursuit tout de suite. On retrouve Sandra Gandoin pour son programme BFM Entreprise Croissance. Et puis demain, Raphaël Legendre, rendez-vous à Aix-en-Provence pour les rencontres d'Aix. Excellente journée sur BFM Business.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.